Alors aujourd'hui, je vais vous lire ce qu'a écrit Sri Anirvan, traduction de Lisèle Raymond. C'est justement, c'est une continuité de ce qu'a écrit Sri Dr. Amal Kiran concernant le départ de Sri Aurobindo. Et là, il écrit « Sri Aurobindo et le mystère de la mort », son titre. Voilà. Alors, ça a été publié dans Mars Asie, revue de culture et de synthèse franco-asiatique, en mars 1951. Alors, c'est un petit paragraphe qui concerne Sri Aurobindo et le mystère de la mort. Voilà. La nouvelle de la mort soudaine de Sri Aurobindo a désarçonné au premier abord beaucoup de ses disciples, placés ainsi devant le problème de la mort. On peut y avoir aussi le premier sacrifice à une noble cause, celle dont Sri Aurobindo parle dans l'une de ses lettres, indique la conquête de la mort est un problème dont la solution sera donnée par le seul supramental. De quelle manière Sri Aurobindo ne l'a pas dit. Mais on peut certainement considérer que son départ, qui n'a pas les caractéristiques de la mort, en est comme un premier chef-d'œuvre. La mort est une chose naturelle, et de même le chagrin que l'on éprouve pour ceux qui partent, car certaine est la mort pour qui est né, dit expressément la Bhagavad Gita. Si la naissance et la mort n'étaient pas les deux extrémités visibles du développement de la vie, il n'y aurait aucune opposition à répéter le shloka de la Gita. Si le corps est né, il doit mourir. Et pourtant, l'homme a toujours convoité l'immortalité. L'idéal formel de la réalisation spirituelle dans les Védas a été la conquête de la vieillesse et de la mort. Ce thème a été repris sans cesse tout au long de l'histoire spirituelle de l'Inde, et toutes sortes de moyens ont été cherchés pour atteindre pratiquement ce but. Tout naturellement, l'esprit demande « Qu'est-ce qui est à la base de cette idée maîtresse ?» L'animal ne prévoit pas la mort, il ne pense pas à la mort. Il est atteint par elle, il s'y soumet passivement. L'homme, au contraire, a souvent un pressentiment de la mort. À cause de ça, même, il essaie de l'éviter. La forme la plus frustre et la plus instinctive pour éviter la mort est décrite par les yogis comme l'inertie de l'âme, Abhinashvesha, son fervent attachement au statu quo. Mais c'est la pire des illusions. Et pourtant, c'est justement ce souci d'éviter la mort, d'en effectuer, dit-on, la conquête par l'esprit qui est l'objet de la recherche séculaire de l'homme spirituel. N'est-ce pas là un vrai paradoxe? Mais si nous posons le problème différemment, nous avons la réponse. La mort est une forme de la quiétude. Il existe un parallélisme frappant entre trois formes de la quiétude à l'état naturel. Le sommeil sans rêve, Sushupti, la mort, Mrityu, et la dissolution, Pralaya. La première est une expérience réelle, et si les deux autres sont des expériences conceptuelles, elles sont néanmoins réelles. Nous n'avons pas peur de la quiétude du sommeil parce que nous admettons qu'elle est un des rythmes de l'incessante activité. Le sommeil pourrait se transformer en mort, mais nous ne voulons pas le savoir. L'espoir de la résurrection est là. L'expérience de la vie, qui est la seule signification de la vie sensible, nous cache le vide de cette mort quotidienne qu'est le sommeil. La conscience dans la vie persiste par rythme alterné d'activité et de quiétude. Ce processus est physique. Mais il peut facilement, par la pensée, devenir un concept métaphysique. Dans le cas aux trois formes de quiétude naturelle, une quatrième doit être ajoutée, celle du samadhi. Une intensité de conscience continue et complètement rassemblée à l'intérieur et qui caractériserait toutes les formes du samadhi peut nécessairement libérer son pouvoir de transcender tout changement. Cette transcendance pourrait devenir une expérience vécue qui fasse pressentir un ineffable sentiment de ce qui est hors le temps. Dans cet état de conscience, les expériences dans leur totalité deviennent homogènes et par conséquent entièrement blanches. Mais cette homogénéité peut fort bien devenir l'arrière-plan d'une multitude d'expériences hétérogènes. À ce moment-là, toute impulsion venue du monde extérieur fera sortir des profondeurs insondées de l'être les réactions monochromatiques d'une conscience d'existence pure, la seule manifestation du Purusha absorbant et transmuant les chocs de Prakriti en sa propre luminosité. L'idée de base de l'immortalité de l'esprit résidant dans cette expérience du vide abstrait et terne. Cette réalisation de la mort dans la vie elle-même deviendra la garantie de l'état de non-mort possible pour l'esprit. Un paradoxe de plus. Mais ce qui est essentiel en l'immortalité de l'esprit est confronté par le même phénomène du perpétuel devenir de la nature. La conception métaphysique, recouverte par ces termes, est très simple. Du point de vue conceptuel, il y a le vide éternel de l'akasha, avec en lui l'éternel jeu du prana. Les deux idées ne se heurtent pas, car elles sont la structure même de la base de notre conscience. Nous regardons sans nous émouvoir la danse de nos pensées. Le sage védique a ajouté quelque chose de fort dans cette formule, le vide transcende atitishtati. La vie. En d'autres mots, être éternellement en équilibre dans la mort signifie laisser le champ libre au jeu éternel de la vie. Cette idée, sur le fond de l'illimité, est sans doute vraie, mais un réel problème et un réel labeur de l'esprit s'en suivent quand nous essayons de rattacher cette idée au processus du temps. Pouvons-nous concevoir comme possible l'esprit universel en face de la nature universelle? Sa réalisation en est un pôle seulement celui de l'esprit, pas au pôle de la nature. Trois aspects de la quiétude de la nature. La conscience individuelle ne peut submerger que la quiétude du sommeil. Mais peut-elle submerger les deux autres? Est-ce que l'éternité peut être une expérience réelle dans le temps? La faculté de raison basée sur la conscience normale en doutera vraisemblablement. La conscience apparaît comme le résultat d'un processus matériel. Le corps vivant émet la conscience. Quand le corps se désagrège, la conscience s'éteint. La survivance de l'âme après le corps ne peut pas être prouvée scientifiquement. Le concept de l'immortalité est une hypothèse indéfendable, née de notre pouvoir à projeter la conscience dans l'avenir. Ainsi parlent les matérialistes. Mais la validité de cet argument n'est pas absolue. La conscience ne se répand pas seulement au dehors. Elle peut aussi se rassembler à l'intérieur et se retirer de son jeu dans le phénoménal tout en conservant en intensité le sens des valeurs. Cette intensité révèle une nouvelle forme du temps, avec un grand T, c'est-à-dire une concentration de la durée sans qu'elle perde sa possibilité de projection. Un instant peut contenir l'éternité, non pas dans le prolongement indéfini de ce processus, mais dans l'extrême consolidation d'une valeur homogène et absolue. Les Upanishads décrivent admirablement cette valeur par le terme Vijnanagana, où les deux concepts de l'universalité et de la consolidation sont fondés ensemble. Dans la conscience normale, ces deux concepts sont en lutte l'un contre l'autre. Universalité assigne une idée et consolidation une sensation. Il y a juxtaposition entre les deux, mais pas fusion. Dans la conscience yogique, au contraire, l'universalité sans forme de l'idée vraie peut contenir toute la gamme des consolidations dans une potentialité qu'on peut aisément imaginer. Cela revient à dire que l'un est le multiple et le pouvoir Shakti, dans leurs vibrations entre eux, peuvent devenir une expérience unitaire et total. Dans la vie normale, le concept qui s'en rapproche le plus est le concept de la personnalité, qui, lorsqu'il est intensifié et universalisé, devient le concept métaphysique de l'Atman. L'Atman, tel une araignée, tisse la toile de l'expérience et s'y retire. Nous envoyons le premier rassemblement à l'intérieur dans le sommeil et la fonction mentale a été retirée. Mais où subsistent le vital et le matériel? C'est l'expérience d'une quiétude, une graine de conscience que les Upanishads décrivent souvent. Une quiétude beaucoup plus profonde se produisait si le mental et les fonctions vitales étaient retirés en même temps. C'est ce qui est connu comme la mort. Pour la conscience normale, la mort n'est pas le même genre d'expérience que le sommeil. C'est plutôt la fin de toute expérience. C'est du reste vrai si nous associons l'expérience de l'activité et l'hétérogénéité, non si nous l'associons avec la passivité et l'homogénéité. Mais si la quiétude devient le mode habituel d'expérience, ou en d'autres termes, si la conscience devient la conscience yogique d'un samadhi naturel, le Sahaj Samadhi de Kabir, les valeurs négatives que nous attachons au sommeil et à la mort se transforment en l'expérience de valeurs positives et supranormales. Le sommeil, Nidra Samadhi Shriti, dans le samadhi n'est pas une expérience rare chez les yogis. Une plongée dans les profondeurs intérieures au cours du sommeil éveillé ouvrira une perspective d'éternité qui peut être projetée tant en arrière qu'en avant. Cette expérience, bien entendu, restera mesurable dans sa durée par le temps. Cette vision de l'éternité traduite en termes de temps et d'espace, donne l'idée de la survivance psychique de la mort, qui est de la seconde des trois espèces d'immortalité envisagées par Sri Aurobindo. Pour celui qui n'a pas vu cette idée paraît un dogme, mais qui jusqu'à un certain point n'a pas grande influence sur l'évolution spirituelle de l'homme. Mais si la conscience spirituelle est essentiellement un rassemblement à l'intérieur de la force consciente, libérant un éveil de plus en plus intense, dont l'impact révèle de nouvelles sphères d'expérience, la vision de l'éternité est alors un pouvoir et un instrument puissant dans les mains d'un yogi. La troisième forme de quiétude est celle de la dissolution qui fait partie du plan intégral. Mais Sri Aurobindo, dans sa vision, a donné une importance particulière à la vie et à la création. Le nœud du problème de l'immortalité reste ce troisième type d'immortalité que Sri Aurobindo a vu et qui a été nommée une immortalité physique. La conquête de l'inconscience et de l'ignorance matérielle jusque dans les fondations de la matière. Page 733, The Life Divine. Cette vision très claire et logique de Sri Aurobindo se centre autour de l'idée de transformation. L'intelligence humaine a divisé l'unité de l'existence par la dualité esprit et matière. La relation entre les deux peut s'observer de la manière la plus probante dans notre propre être, qui n'est qu'un morceau de matière doté de vie et de conscience. La conscience, dans son éveil ou déjà active mais non encore mentalisée, n'atteint pas le point décisif avant d'être devenue conscience témoin. À ce moment-là, une division idéale se fait dans le corps même de la conscience. Et il surgit la possibilité d'une conscience indépendamment centrée sur elle-même. Exactement comme une multiplicité de chocs clarifie et consolide une idée objective. De même, des chocs intérieurs fournissent à la conscience de l'âme une solide structure. Celle-ci, par la suite, peut apparaître transcender les phénomènes périphériques et s'en tenir éloignés. Ce détachement de l'esprit dans sa période d'auto-formation et réfléchi dans l'esprit par la dualité esprit et matière. Mais en réalité, c'est une seule substance qui peut être expliquée de diverses manières par les expériences graduées de densités différentes. Vu d'en bas, la conscience a émergé d'un développement de la matière. Si nous maintenons la notion de dualité, nous pouvons dire qu'il y a une interaction entre les deux. Le même raisonnement serait la théorie upanishadique de la transparence du substratum d'Atu Prasada menant à l'expansibilité lumineuse de la structure de l'âme, ou pour rendre une image védique, la conscience. Tel le feu peut être dite avoir interpénétré la matière pour la transformer en sa propre substance. Le voyant des Upanishads dit « Les éléments composant la structure matérielle du corps ont une gradation de densité et chacun a une propriété illimitée qui peut être libérée par la conscience yogique. Si ces propriétés essentiellement yogiques surgissent, le corps physique est alors saturé du feu yogique et il ne connaît plus ni maladie, ni vieillesse, ni mort. » Alors je termine, il reste un petit passage. Du point de vue matérialiste où l'idée apparaît toujours un accessoire, cette explication semblera improbable. Mais si le point de vue est renversé, si l'idée évoquée par le contact des sens est regardée comme une réalité, et si la volonté s'efforce de manipuler ces réalités sur cette nouvelle base, un nouvel ordre de choses naîtra. La maladie, la vieillesse et la mort seront peut-être combattues à la manière du Bouddha par les forces spirituelles. On guérit l'esprit malade et il en résulte la guérison du corps malade. En thérapeutique moderne, c'est quelque chose de cet art. La conquête de la vieillesse et de la mort sur le même front peut être considérée comme un état d'extension de ce qui a déjà été atteint. L'aventure en vaut la peine. La conquête de la mort est un problème d'ordre cosmique qui implique un renversement absolu du plan de l'évolution de la vie telle que nous la connaissons. Alors, je répète parce que pour moi, c'est une phrase qui m'a fait chavirer. Mais la conquête de la mort est un problème d'ordre cosmique qui implique un renversement absolu du plan de l'évolution de la vie telle que nous la connaissons. Et Sri Aurobindo l'a vu. Et il s'est lancé dans sa téméraire aventure pour affronter les forces cosmiques elles-mêmes. À ceux qui ont voulu le ridiculiser ou l'accuser d'hérésie, à travailler contre le plan divin, il a clairement répondu « Non, c'est ouvrir le chemin pour l'inévitable accomplissement de son dessein. » Sri Aurobindo est indubitablement le premier sacrifice d'une noble cause. Sa mort n'a pas jeté du tout un point d'arrêt. Elle fait partie, plutôt, Elle fait plutôt penser aux paroles du Rishi du Purusha Suktam, comme les dieux étendaient la toile du sacrifice, ils attachèrent le Purusha lui-même au poteau de la victime. Si la mort, ainsi que le disent les voyants de l'Upanishad, est une concentration d'une illumination derrière le cœur, la mort de Sri Aurobindo a été comme une explosion illuminant tout l'horizon d'un avenir lointain, et un grand choc pour les vivants a été et sera de grande envergure dans ses résultats. Sri Anirvan. Voilà, je dépose cette lecture au pied de Sri Aurobindo et douce mère, Ganga Lakshmi.